veux le dire en anglais, comme ancien fonctionnaire, I think better on my seat than on my feet. Alors, restez assis. Il y a quelqu'un qui m'a volé, il y en a plusieurs d'ailleurs qui m'ont déjà volé cette référence aux trois mousquetaires, alors je ne vais pas en parler. le plan, c'est ça, donc, c'est l'examen de la vraie nature de l'ADEMA. Un bref rappel du bilan, quelques chiffres, une intégration en perte de vitesse. Mais c'est un phénomène qui n'affecte pas que l'ALENA. C'est avec ça que je travaille. Oui, voilà. Oui, cette désintégration, je sais que M. Danse peut-être trouve que c'est un mot trop fort, mais en fait, l'intégration en perte de vitesse, ce n'est pas un phénomène qui affecte seulement l'ALENA. Les failles de l'ALENA, évidemment, il y en a plusieurs. Et puis, quels sont les défis pour l'avenir? D'abord, la vraie nature de l'ALENA. Pas ça. D'abord, il faut toujours se rappeler qu'un accord de libre-échange, c'est le premier degré formel d'intégration économique. Donc, vraiment, au bon échelle. J'entendais tantôt Mme Coronado dire qu'il y a un livre qui s'appelle Fronteras Nomas. Eh bien, un accord de libre-échange, ça exige des frontières. Pourquoi? À cause de quelque chose que M. Jean a mentionné, les fameuses règles d'origine qui sont destinées à limiter les bienfaits de la zone de libre-échange aux membres de la zone de libre-échange. Bon. Donc, cet accord-là, au départ, et c'est vraiment l'année, en fait, dont il faut parler ici, c'est le 25e anniversaire qui, à mon sens, est plus fort que plus intéressant que le 20e, parce que c'est là que les clauses ont été vraiment négociées. Et ces deux accords-là, surtout le premier, mais le deuxième également, n'ont pas été négociés pour s'élargir. Donc, ce n'est pas une fondation. Hein. Le premier accord a été taillé sur mesure pour les besoins du Canada et des États-Unis. La preuve, c'est que quand on a ajouté le Mexique, c'est passé de 250 pages à 1000 pages. Simplement pour ajouter un pays qui, manifestement, n'a pas le même degré de développement. Des réductions tarifaires importantes, mais en fait, on avait déjà 85% de nos produits qui entraient aux États-Unis en franchise. Les États-Unis, c'est un peu moins parce que notre tarif était plus élevé, donc à peu près 75 à 80%. Des règles assez utiles, pas de problème, il y en avait. Une innovation institutionnelle majeure, c'est le chapitre sur les règlements, les différents, chapitre 19, chapitre 20, moins évidemment. Mais le chapitre 19, ça n'avait jamais été fait aux États-Unis, et ils s'en sont aperçus au bout de 4-5 ans, et ils l'ont tué. Aucune identité nord-américaine qui est apparue à cause de cet accord. S'il y a une identité américaine qui est en gestation, ce n'est certainement pas l'accord de libre-échange qui est en cause. Selon le site même du ministère des Affaires étrangères et du Commerce et du Développement, ce nom-là, change évidemment comme les noms changent au Québec aussi, c'est une manie qu'on a. Le commerce bilatéral est passé donc de 289 milliards en 1993 à plus que 1000 milliards en 2012. C'est quand même important. La taille de l'économie, elle aussi, a plus que doublé. Les stocks d'investissement, on en a parlé tantôt, je me limite encore là-dessus. Mais, selon le Congressional Research Service, on devrait tous s'abonner si c'était public, de 1993 à 2012, le commerce des États-Unis avec le Mexique a augmenté de 506%, 192% au Canada, mais avec le reste du monde, 279%. Alors, il ne faut pas se demander pourquoi la stagnation qu'on a mentionnée tantôt existe. Mm-hmm. Comme Charles Bécourt, je n'ai pas énormément de ressources. Alors, je me suis inspiré ici, j'ai emprunté un excellent graphique au Financial Times qui a publié une série d'articles en décembre sur les 20 ans de l'ALENA. Il y a beaucoup d'informations là-dessus, on ne va pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais ce qui est intéressant de constater, c'est que ce sont les exportations canadiennes et américaines au Mexique qui ont augmenté en volatilité. Les autres, en fait, ont diminué légèrement, mais ont diminué quand même. Ensuite, la composition des importations, des exportations a changé. Remarquez que le Canada a retrouvé son avantage comparatif de ressources naturelles et la proportion, justement, de ces exportations qui est formée d'hydrocarbures, ça c'est au cercle, là, non, a augmenté considérablement, on sait pourquoi. La balance commerciale, évidemment, est positive pour le Canada et le Mexique, mais très négative pour les États-Unis. Et l'éléphant, on devrait dire le dragon dans la pièce, eh bien, vous le trouvez ici, c'est le commerce avec la Chine. Le ministère, et d'ailleurs c'est le bureau du économiste en chef, il y a quelques années, a publié un article très intéressant, un travail très intéressant, qui est un indice, un nouvel indice d'intégration Canada-États-Unis. Et voilà le résultat. La série s'arrête en 2006, mais en fait, on peut voir, en fait, selon les cours qu'on a vu tantôt avec M. Lance, que ça continue. Et là, ça devient très chaotique. Il y a au moins quatre facteurs, en fait, qu'on calcule pour déterminer le degré d'intégration. Alors, voici la désintégration de cet indice-là. Et vous voyez, on parle de commerce des biens, on parle de l'investissement direct étranger, les autres services commerciaux et aussi la connaissance, en fait, mesurée par les brevets, propriété intellectuelle, ces choses comme ça. Alors, vous voyez qu'effectivement, à partir de 2001, d'abord, il y a eu la bulle .com, ça, c'est la ligne brisée et verte, là, qui a affecté les choses, mais le commerce des biens, effectivement, s'est aplani. Je n'avais pas non plus le temps ni les moyens de calculer cet indice-là pour les dernières années. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ce que j'ai pu. En fait, j'ai pris les derniers chiffres de l'OMC, en fait, sur les cinq zones, les cinq accords commerciaux, en fait, sur lesquels ils publient eux-mêmes les données, et je les ai mis en forme de graphique. Alors, la grande ligne bleue, c'est l'Union européenne. Alors, vous voyez que l'Union européenne elle-même, en fait, son degré d'intégration a diminué. Hein, on est passé. On est passé de 67,9% en début de période à peu près 62%, du moins 62% maintenant. Pour l'ALENA, 44,7% en début de période, 39,3% maintenant, et 10,5% à 8% pour le marché commun en dette. En fait, les deux autres accords, ASEAN et puis Mercosur, sont restés à peu près au même niveau, aux alentours de 24-25% pour l'ASEAN et 14-15% pour le Mercosur, qui est vraiment plus un projet qu'un accord. Alors, c'est donc dire que ce phénomène de désintégration relative, il n'est pas limité, en fait, à l'ALENA, mais il touche les autres grandes zones également. Les failles. Alors, le commerce, le fameux modèle de Harris & Cox n'avait pas prévu l'énorme expansion du commerce. C'était pas dans le modèle, en fait. On était très surpris de ça. Donc, une croissance moyenne avec un avantage pour les États-Unis et le Canada au Mexique. Les conflits commerciaux. Alors là, ça s'est vraiment gâté entre l'aller et l'aller. Pour la période d'aller, les cinq années, ça s'est bien passé entre le Canada et les États-Unis. On a gagné deux batailles sur trois, en fait. Mais il y a eu déjà, en fait, des indices que ça ne durerait pas, le fameux cas du cimentissement mexicain, et évidemment, le cas du voileur. Je ne vais pas en parler beaucoup parce que mon collègue Richard Ouellet va s'en charger tantôt sur sa présentation sur les règlements, les différents. Le camionnage mexicain, alors ça a pris 15 ans, en fait, pour en arriver à une espèce d'essai qui n'est pas vraiment complet. Pourquoi? Parce que je pense que les camionneurs mexicains se sont désintéressés de la chose éventuellement. La mobilité professionnelle, il y avait des choses de prévues, ça n'a pas vraiment changé, ça ne s'est pas vraiment concrétisé. La sécurité, alors là, évidemment, on est à la troisième itération d'un processus qui n'a pas vraiment encore touché. L'environnement de travail, en fait, j'ai été tout à fait surpris et agréablement surpris de la présentation de Mme Coronado tantôt, mais il faut bien se rappeler que c'était des feuilles de vigne pour M. Clinton qui en avait littéralement besoin à l'époque, électoralement et autrement, et aussi un petit peu pour M. Chrétien qui a été élu l'année dernière, qui avait promis de déchirer l'accord de libre-échange. 3 minutes. Beaucoup d'autres cas, alors on a déjà mentionné Buy America depuis 2009 avec M. Obama, la question de l'automobile qu'on est obligé de nationaliser littéralement, la vache folle, E. coli, liqueur noire, des choses peut-être là-dedans que vous ne connaissez pas, là. Keystone XL, 5 ans, pas de décision, nouveau pont Windsor Détroit, on vient d'en parler, et certains des succès, en fait, ont été relativement désastreux. L'introduction du maïs américain au Mexique, évidemment, sans vraiment de programme d'adaptation. Les sables bitumineux, évidemment, on n'a pas besoin d'en parler non plus. Qu'est-ce que ça nous reste? Qu'est-ce que ça nous laisse? Un de mes amis et un des avocats américains les plus expérimentés dans le droit de l'ALENA, le chapitre 19 et autres chapitres, Elliot Feldman, avait fait une présentation semblable à celle-ci, en fait, qu'on fait aujourd'hui, pour le 15e anniversaire. Et le titre de sa présentation, c'était NAFTA, Maybe Worth Saving, but not Worth Fixing. Et pourquoi? Ben, essentiellement parce que c'est un accord, comme la plupart des grands accords internationaux, qui est très, très difficile, en fait, très, très difficile d'amender. Et certainement pas, tant qu'on n'aura pas changé les acteurs actuels, vous savez qu'il n'y a pas vraiment d'amour perdu entre M. Harper et M. Obama, pour des bonnes raisons, en fait, pas simplement de chimie personnelle. Il y aurait donc lieu d'envisager un nouvel accord, et ce nouvel accord, à mon sens, devrait dépasser les questions purement économiques ou commerciales. D'abord, évidemment, à cause de ce qui s'est passé en 2001, il faut que ça traite de sécurité et d'immigration, une espèce de périmètre commun peut-être. L'environnement et le changement climatique, on n'y échappera pas, on est déjà là-dedans. Les pandémies, je pense que ça exige une gestion continentale. La régulation financière. On a beaucoup fait état, en fait, du fait que le Canada s'en était mieux tiré avec son système bancaire que les États-Unis. Que les États-Unis, dans la crise qui dure encore un peu, eh bien, une approche nord-américaine, ça serait intéressant, peut-être plus facile de s'entendre à deux ou à trois qu'à 20 ou 25, en fait, avec le groupe des 20. Inséré dans un contexte global, bien sûr, la sécurité alimentaire. Alors, on a vu aujourd'hui, effectivement, que c'est très, très important, les importations alimentaires du Mexique et des États-Unis. Ceci dit, vous savez aussi, au Canada, il y a une question qui se pose, et elle s'est toujours posée, même avant la négociation de l'avenir. Est-ce qu'on veut vraiment un avenir à trois ou un avenir à deux? Et cette question-là est encore importante. Parce que les problèmes que le Mexique rencontre aux États-Unis et les nôtres, en fait, sont relativement différents. Alors, je ne crois pas, malgré les efforts de Robert Pastor, dont j'ai appris le décès ici aujourd'hui, qui a été une voie dans le désert, en fait, pour une plus grande intégration, je ne crois pas que ça va se passer pour des raisons parfaitement historiques. Diane Francis, la commentatrice du Canada anglais, vient d'écrire un livre là-dessus. Je ne pense pas qu'elle va avoir plus de succès que M. Pastor. Alors, il faut continuer à en parler, à en discuter, mais ce n'est pas dans la voie d'une intégration plus classique, comme par exemple celle de l'Union européenne, qu'on va trouver une vraie piste de tête.
Merci.